Bienvenue sur la balado d'Édouard, podcast exploratoire où à chaque production, je proposerai un récit d'événements sur des enjeux et sujets d'intérêt public qui m'interpellent. Au terme de l'exercice, je lancerai une production de balado basée sur les éléments retenus de ce mode exploratoire. Bienvenue en Appalachie. Après le Trias et le Jurassique, le Crétacé est le troisième et dernier chapitre de l'âge des dinosaures. À cette époque, le climat était beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. L'expansion des fonds océaniques rejeta une grande quantité de CO2 dans l'atmosphère. Ce gaz à effet de serre causa un important réchauffement planétaire qui culmina il y a 92 millions d'années. Des climats presque tropicaux existaient alors au-delà du cercle arctique qui était complètement dépourvu de glace. Des fossiles d'animaux qui ne supportaient pas le froid ont d'ailleurs été trouvés à ces latitudes très élevées. Cette époque vit la naissance des rocheuses lorsque la plaque tectonique nord-américaine entra en collision avec une plaque sous-marine du Pacifique. Ce bouleversement créa une dépression au cœur du continent et, comme le niveau des mers était plus élevé qu'aujourd'hui, les terres intérieures de l'Amérique furent inondées pendant des millions d'années. Un grand bras de mer appelé la voie maritime intérieure de l'Ouest s'étendait du Texas jusqu'au territoire du Nord-Ouest, isolant complètement la côte est de la côte ouest du continent. L'Amérique du Nord se transforma donc principalement en deux grandes îles continents. On a baptisé la section occidentale la Laramidie et la section orientale l'Appalachie. C'est au sommet de cette dernière que trônait le Québec et il était situé au-dessus du niveau de la mer. Rappelons que, dans sa longue dérive boréale, le Québec était alors situé au sud-est de son emplacement actuel. Des études démontrent que les températures du Crétacé étaient plus élevées de 5 à 10 degrés dans les basses latitudes et de 30 degrés plus élevées dans les hautes latitudes. Des fossiles de plantes et d'insectes qui datent de cette époque, magnifiquement préservés et récemment trouvés dans une mine près de Schefferville, nous donnent des indices intéressants sur le climat québécois du Crétacé. Scientifiques qui ont étudié ces fossiles affirment que notre climat était alors tempéré et humide. Plus élevé qu'aujourd'hui, la température moyenne annuelle devait être d'environ 15 degrés. Les étés étaient donc chauds et les précipitations abondantes toute l'année. Nous savons que vers la fin du Crétacé, le sud de l'Appalachie était recouvert de forêts humides tropicales. Compte tenu du climat global très chaud et de l'apparente absence de fluctuations des températures, on peut donc déduire que des forêts tropicales ou subtropicales étaient également présentes chez nous. C'est également pendant cette période qu'apparurent les premières fleurs qui vinrent rajouter une touche de couleur à ce monde verdoyant. La plus ancienne fleur toujours vivante, l'Amborella, existe depuis 150 millions d'années. Dans ce beau décor, les dinosaures qui vivaient en Appalachie sont moins bien connus que leurs cousins de l'Ouest. Mais les fossiles de certains d'entre eux ont tout de même été découverts, ce qui nous permet de nous faire une idée de la faune québécoise de l'époque. Le plus grand prédateur du Québec était un cousin du tyrannosaure, le dryptosaure. Ses os ont été découverts au New Jersey. Un peu plus petit que son célèbre parent, le dryptosaure pouvait quand même mesurer 7,5 mètres de long et peser 1,5 tonnes. Comme le fameux T-Rex, c'était un carnivore bipède, mais ses pattes avant étaient plus longues et équipées d'impressionnantes griffes recourbées de 20 cm de long. Afin de mieux déchirer la chair de ses proies, ses dents acérées comportaient des dentelures latérales qui ressemblaient à celles des couteaux de steak. Un autre prédateur de cette même famille, Appalachiosaure, a également été découvert. Il s'agit du fossile d'un juvénile qui mesurait 7 mètres de long. Les adultes devaient donc être encore plus imposants. Trouvé en Alabama, nous ignorons toutefois s'il s'aventurait ou non dans les territoires plus nordiques. Des études ont démontré que certains des membres de la famille des Tyrannoséroïdés étaient ornés de plumes. C'est peut-être également le cas du Dryptosaure et de l'Appalachiosaure. Les restes d'énormes dinosaures carnivores de la famille des Raptors ont récemment été découverts tout près de chez nous, au New Jersey. Quiconque a vu le film de la série Le Parc Jurassique se souviendra de ces prédateurs intelligents et voraces qui attaquent en meute et qui sont capables d'ouvrir des portes. Eh bien, ces Super Raptors mesuraient 4 mètres de long et contrairement à ce que montrent les films, ils étaient probablement couverts de plumes. Et qui dit grand prédateur dit nécessairement proie colossale. La famille de dinosaures la plus répandue de l'époque était celle des hadrosaures, des dinosaures avec des becs de canard. Comme ils étaient très présents en Appalachie, les scientifiques soupçonnent qu'elle était la terre natale de toutes les espèces. Ces énormes animaux herbivores se déplaçaient généralement à l'horizontale sur les deux pattes arrière et on se servait de la queue en guise de balancier. Une autre famille des dinosaures, plus rare dans l'Ouest, était très répandue en Appalachie. Il s'agit de la famille des nodosauridés, des animaux enveloppés dans une espèce armure dorsale dont l'apparence n'est pas sans rappeler celle des tatous modernes. Plusieurs de ces espèces ont été trouvées de l'Alabama au New Jersey, ce qui suggère une très large distribution. Mais attention, les prédateurs du Crétacé n'étaient pas tous des dinosaures. Un gigantesque crocodile appelé Deinosuchus hantait les rives des lacs et des fleuves. Ce monstre titanesque mesurait 10 mètres de long et il était un mangeur de dinosaures. Comme les crocodiles modernes, il attendait probablement qu'un animal assoiffé s'approche de l'eau pour bondir subitement et l'attraper dans ses énormes mâchoires. Il l'entraînait alors sous l'eau pour le noyer et enfin le dévorer. Des traces de dents de ce reptile ont été trouvées dans les os de dinosaures de la famille du T-Rex, ce qui indique qu'il ne craignait pas de s'attaquer aux plus redoutables prédateurs terrestres. Très répandu en Appalachie, on a découvert des fossiles de cet animal tout près d'ici, au New Jersey. Une autre famille de dinosaures, la seule à avoir survécu jusqu'à nos jours, existe depuis le Jurassique et elle était très répandue au Crétacé. Il s'agit bien sûr des oiseaux. Plusieurs fossiles d'oiseaux d'Appalachie ont été découverts. À cette époque, les oiseaux partageaient toujours le ciel avec les ptérosaures et certains de ces reptiles volants atteignaient des tailles impressionnantes. Quetzalcoatlus, le plus grand répertorié à ce jour, possédait des ailes d'une envergure de 11 mètres, c'est-à-dire la même que celle d'un avion Cessna 172. Lorsqu'il se promenait au sol, il mesurait 5 mètres de haut, c'est-à-dire la même taille qu'une girafe. Les restes de ce géant ont été découverts dans le sud des États-Unis, mais il n'était probablement pas présent uniquement dans cette région. On estime qu'il pouvait voler à une vitesse de 130 km/h et se déplacer sur de très grandes distances. Il aurait même été capable de traverser l'Atlantique sans jamais s'arrêter. Fait intéressant, une récente théorie postule qu'à au moins deux occasions, un pont de terre se serait formé entre le Québec et l'Europe, permettant aux animaux d'un continent de s'installer sur l'autre. Un premier passage aurait rejoint le Québec à la péninsule ibérique il y a 154 millions d'années. Un second corridor nous aurait rattachés à la Scandinavie il y a 131 millions d'années. Ces ponts expliqueraient pourquoi on retrouve des fossiles des mêmes espèces de dinosaures en Amérique du Nord et en Europe. Ces grandes migrations auraient nécessairement traversé le territoire québécois. Il y a 66 millions d'années, la disparition des dinosaures. Il y a 66 millions d'années, une énorme comète frappa de plein fouet le golfe du Mexique et la péninsule du Yucatan. On estime son diamètre à près de 10 km et sa vitesse à 20 km par seconde. Le cratère qui fut créé par ce terrible impact mesure 180 mètres de diamètre. Depuis la découverte de ce cratère, les scientifiques de plusieurs disciplines tentent de comprendre quels ont été les effets d'un tel cataclysme. L'impact initial fut d'une intensité qui dépasse l'entendement. L'explosion fut l'équivalent de 100 trillions de tonnes de TNT, soit plus d'un milliard de fois la force d'Hiroshima. Au point initial, la température atteignit 8000 degrés Celsius en l'espace d'un clin d'œil. Tout ce qui se trouvait dans un rayon de 1600 km fut incinéré. Tout ce qui vivait s'enflamma et fut réduit en cendres. Une épaisse couche de fumée, de cendres et de poussière causée par l'impact et les feux de forêt envahit le ciel et la planète fut plongée dans l'obscurité pendant près de 2 ans. Les températures chutèrent et lorsque le ciel s'éclaircit enfin, notre planète n'était pas au bout de ses peines. La gigantesque quantité de CO2 projetée dans l'atmosphère causa un important réchauffement climatique qui dura des siècles. On estime que les températures mondiales grimpèrent d'environ 20 degrés Celsius. Tous les écosystèmes tombèrent dans le chaos et tous les dinosaures tombèrent les uns après les autres. On estime qu'environ seulement 30% des espèces trouvèrent le moyen de survivre, dont certains oiseaux. Leurs braves descendants volent aujourd'hui dans les champs de la Montérégie et du Québec. Merci d'avoir écouté la balado d'Édouard. À chaque production, je proposerai un récit d'événements sur des enjeux et sujets d'intérêt public qui m'interpellent. Au terme de l'exercice, je lancerai une production de podcast basée sur les éléments retenus. Je vous invite à suivre la balado d'Édouard sur SoundCloud, Instagram, Reddit et la balado du Québec. Au plaisir de s'y retrouver.